Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous au fil de la prochaine heure, mais pas seul avec vous. Et oui, quand je fais cette introduction-là, ben, ça veut dire qu'on est en mode club de lecture et ça veut dire que le « pas seul avec vous » implique que je suis, entre autres, avec Édouard Tremblay. Bonjour.
Salut Raymond. Salut tes auditeurs.
Entre autres, avec Jérôme Vermette. Bonjour.
Salut Raymond.
Entre autres, avec Marco Duchesne. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, évidemment, mes quatre passionnés de bande dessinée en résidence, donc ils sont avec moi pour parler BD. Je rappelle la formule, en fait, pour ceux qui, par un pur hasard de circonstances, découvrent aujourd'hui La Vie en BD. Et j'en profite pour vous informer que si vous aimez ce que vous écoutez, eh bien, l'ensemble de près de 11 ans de balado-diffusion est disponible sur lavieenbd.com, par ailleurs, incluant moult clubs de lecture. Alors, bien, essentiellement, on est quatre compères qui se réunissons de façon mensuelle pour ces clubs. Donc, l'objectif est de discuter et de parler bande dessinée. La façon dont on procède, c'est qu'à chaque mois, dans le fond, il y en a un de nous quatre qui va imposer un thème. Et à partir de ce thème-là, chacun des membres du club va avoir à proposer une bande dessinée qui est rattachée au thème et qu'on est en mesure de justifier si ce n'est pas clairement évident, mais je pense que ce mois-ci, ce l'est. Et donc voilà le fonctionnement. Et évidemment, notre objectif va être de vous en jaser avec verve et passion au fil de la prochaine heure. Et je disais, bien, dans le fond, chacun d'entre nous choisit un thème. Pour ce mois-ci, bien, c'est Édouard Tremblay qui l'a sélectionné. Et Édouard, tu as choisi le mot « malaise ».
Oui, le malaise, hein, quelque chose de très large. Ben, en fait, en regard de notre dernière expérience du mois passé, hein, on avait eu beaucoup de plaisir, puisque c'était la première fois qu'on introduisait un thème avec chacun qui amenait ses BD. Et donc, ça nous a permis de voir que, pour une question justement très vaste comme l'humour absurde, nos perceptions personnelles étaient, sans dire diamétralement opposées, mais étaient quand même assez différentes l'une de l'autre. Et c'est un peu ce qui m'a motivé, en fait, pour le choix d'aujourd'hui. Je me suis dit, quel nouveau thème pourrait nous amener, justement, à voir un peu la disparité entre les quatre, au-delà, bon, de l'amour de la BD, hein, comment on définit, justement, un terme assez large, assez complexe, assez touffu, et le malaise m'est venu à l'idée. Et d'emblée, je vais être clair, hein, on s'entend, là, c'est pas... L'idée, c'est qu'il faut distinguer malaise et mauvais. Donc, c'est pas une sélection de quatre BD qu'on a trouvées mauvaises. Loin de là. C'était pas ça l'idée. C'est pas ça le concept. Hein. Je rentre dans les grandes généralités, mais depuis l'aube des temps, l'humanité a toujours aimé se faire peur. Non, mais au-delà de ça, je veux dire, se faire peur, hein, c'est quelque chose où, bon, se provoquer un malaise ou quelque chose qui provoque un malaise, je veux dire, c'est des barèmes sociaux, c'est des façons qu'on a aussi de progresser, hein, de confronter nos peurs parfois. Parfois aussi, c'est juste des guides ou des repères. Je veux dire, le malaise, qu'on ressente cette émotion-là en lisant, en écoutant un film, en écoutant de la musique, c'est une indication très claire de notre nature, de ce qu'on est, de ce qu'on accepte et de ce qu'on ne prend pas. Et donc, c'était un peu l'idée, c'est de voir justement qu'est-ce qui, pour chacun de nous quatre, provoque une situation de malaise. Qu'est-ce qui nous plonge dans quelque... Qu'est-ce qu'on lit à la fois un peu pour se faire peur, mais qu'est-ce qu'aussi on lit avec un plaisir, disons, teinté de cette espèce, justement, de présence-là, cette espèce de point qui nous accroche, qu'on lit quand même, comme je disais, pour le plaisir, mais avec les dents serrées un petit peu, là.
Et j'ai mentionné les quatre albums qu'on a amenés sur le terrain et potentiellement, en fait, je pense que tu le dis, les quatre définitions peut-être aussi de malaise qu'on propose. Alors, je vais mentionner les quatre albums et ensuite chacun, on va les présenter. On pourra continuer à détailler aussi notre perception du thème. Alors, du côté manga, aux éditions Akata, c'est La virginité passée, 30 ans, souffrance et désir au quotidien. C'est de Atsuhiko Nakamura et Bargen Sakuraichi. Il y a également Tram, le poids d'une tête coupée de Ratzinger, c'est chez Atrabil. On a Winchlus, j'ai tué le soleil, ça c'est chez Gallimard. Et enfin, à la boîte à bulles, Anna de Stéphane Bedbédé et Christophe Beck. Donc c'est les quatre titres qu'on va discuter. Donc quatre titres amenés par chacun de nous quatre autour du malaise. Édouard, puisque tu étais sur ta lancée thématique et puisque j'ai l'impression l'idée est venue aussi d'une BD quand tu as pensé au thème, il y a toujours une certaine adéquation. Donc toi, tu nous as amené sans surprise peut-être, pour ceux qui te connaissent, vers le manga.
Oui, non pas vers la virginité, comme Jérôme, on le voit rire, on voit déjà plein de blagues douteuses qui émergent. Mais en fait, oui, pourquoi j'ai choisi ce manga-là? Bon, sans entrer justement dans les détails, puisqu'on aura l'occasion d'en discuter. Pour moi, le malaise, c'est quelque chose qui doit avoir une assise dans le concret, pour me provoquer un malaise chez moi. Quelque chose qui est une pure fiction, et Dieu sait que bon, j'ai la réputation de lire du trash, de lire du gore, des choses qui sont épouvantables, mais qui sont fictives. Et c'est là, moi, où la différence se fait. Qu'est-ce que j'ai décidé d'amener comme malaise? Parce que justement, les gens doivent dire, bon, quelle espèce d'abomination Sandron, il va nous faire lire. Mais non, parce que justement, c'est fictif. Moi, ce que ça me prenait, c'est du concret. C'est du documentaire, c'est des choses qui ont été vécues par les gens. Et c'est pourquoi j'ai choisi, en fait, la virginité passée 30 ans, comme j'en aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment l'aspect réaliste, l'aspect concret de la chose qui, chez moi, était l'initiateur du malaise.
Alors, ça, c'est notre premier titre. Tiens, je vais y aller avec le second. On va passer la balle à Marco, qui s'éloigne de la ligne claire et nous propose « J'ai tué le soleil » de Winchlus.
Selon certains, pas tant que ça. Mais oui, Winchlus, qui, lui, avait provoqué un premier malaise avec son Pinocchio dans les années 90, co-récipiendaire d'un prix Angoulême pour ce Pinocchio où il reprenait le conte à sa façon, dans un dessin très léché et tout, mais avec des variantes un peu bizarres, weird et malaisantes, pour ceux qui l'ont lu et qui s'en souviennent. Et là, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de BD, souvent. Alors là, il nous arrivait cette année avec « J'ai tué le soleil », un récit post-apocalyptique dans lequel évolue un personnage amnésique qui, lui, s'est réveillé en plein post-apocalypse et qui essaie de survivre. Et tout au long de son errance à vouloir survivre et tout, on va en apprendre un peu plus sur lui. Et lui aussi va en apprendre sur lui, on va le suivre, jusqu'à découvrir le secret de tout ça, et comment ça a commencé et pourquoi il sera... Et là, effectivement, il y a une espèce de twist qui se fait avec cette histoire-là par rapport au genre, récit de zombie, peu importe. Là. En discutant avec Édouard, qui lui, dans la fiction, il n'y a pas de problème avec lui pour aller chercher des malaises, c'est plutôt dans le documentaire. Tu vois, moi, c'est le contraire. J'ai réalisé en lisant les albums que moi, le documentaire, qu'il soit à la télé ou en BD, me met pas mal à l'aise, même à cause des sujets. C'est comme si ça me rassurait sur le genre humain, en me disant « Ah, OK, c'est vrai qu'on est de même ». Tandis que dans la fiction, c'est comme si « Ah oh, non, non, ça se peut pas, là, on n'est pas comme ça ». Alors, pour moi, c'est tout à fait le contraire. Et c'est pour ça que « J'ai tué le soleil » a jeté un petit malaise.
De mon côté, je vais poursuivre. Moi, j'ai choisi Tram de Ratzinger, Tram le poids d'une tête coupée. Pour moi, dans le fond, le malaise vient de l'absence de sens, de l'absence d'explication, de la gratuité des actions. Donc, où on assiste dans cet album-là à essentiellement une descente aux enfers, mais au bout du compte, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est infligée au personnage. On ne sait pas d'où elle vient, cette descente aux enfers-là, et on ne sait pas pourquoi ils vont la subir, et finalement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va s'être passé non plus, parce qu'il y a quand même plusieurs possibilités d'interpréter cet album-là. On nous donne des éléments même pour le décoder, on peut s'amuser un peu avec différents processus narratifs, mais au bout du compte, pour moi, c'est un bel exemple justement de cette incompréhension-là un peu, parce que j'ai l'impression qu'on va faire beaucoup de parallèles avec le cinéma, mais pour moi, par exemple, un film comme Funny Games de Haneke, et le fait qu'on n'explique jamais pourquoi les gens viennent et font subir ça à la famille, pour moi, ça devient quelque chose de malaisant, parce qu'après ça, une fois que l'événement s'installe, bien, il y a un jusqu'au-boutisme qu'on voit aussi dans Tram, où on va jusqu'au bout de cette descente-là, jusqu'au bout de ce qu'on choisit de faire subir à ces personnages-là, et on n'aura jamais la satisfaction d'une explication. Alors, c'est un peu ce qui m'a amené à choisir ce récit. Et évidemment, au fur et à mesure de la description, on se rend compte qu'on a vraiment quand même encore là différentes interprétations du malaise. Et Jérôme Vermette, de ton côté, tu as choisi Anna de Stéphane Bette-Bédé et Christophe Beck. Et j'ai l'impression que tu nous amènes un peu dans un malaise psychologique presque.
Ouais, t'es pas mal dedans, là, effectivement. Bon, moi, j'ai regardé beaucoup au début, évidemment, l'horreur, parce que tout le monde sait à quel point je trippe sur l'horreur, mais finalement, je venais de lire cette BD-là qui est sortie cette année, là, je me rappelle plus quand exactement. venant de ces auteurs-là, ça m'a beaucoup surpris en partant comme style. Tant au niveau du dessin de Christophe Beck, qui est hyper photoréaliste, là, en fait, on a même l'impression qu'il a pris des photos et qu'il a dessiné par-dessus, que du scénario de Bette Begler, là, qui est justement la dernière affaire que j'avais lue de lui, c'était les créatures avec Jeff Bergeron et dans autre chose complètement, finalement. Alors, avec Anna, l'histoire de base, dans le fond, pourrait être une histoire de vengeance, comme on en a vu, et encore là, je vais faire comme vraiment des parallèles avec le cinéma, ça aurait pu être un Ice Pit on Your Grave, par exemple, ou à la Stars on the Left. Parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui, d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un mec qui est, ma foi, s'adore. Il est du genre « je m'aime, je m'aimais, je m'aimerai » et qui décide de l'utiliser, puis finalement, au bout du compte, de la laisser là. Et elle décide de se venger. Ça, c'est la prémisse qui est expliquée même à l'endos du livre. Mais le lire, finalement, c'est de se rendre compte que la vengeance de la dite Anna est beaucoup plus tordue. On va parler de folie dans le cas d'Anna, mais c'est que cette bande dessinée-là va plus loin dans le sens que finalement, cette histoire d'Anna-là est pratiquement secondaire à côté des gens qui tournent autour du narrateur qui est le narcissique qui est égal, ben c'est ça qui est le narcissique qui est de qui Anna se venge. Et là où d'habitude on se fait mettre dans des situations de famille redneck ou je sais pas trop quoi, que c'est eux qui sont les malaisants, ici on est avec des artistes, ce sont tous des artistes, ils sont ni plus ni moins, on pourrait presque dire, on pourrait les identifier presque à la gauche caviar, j'imagine, là, les gens du plateau, si on les voyait. Mais ils sont tous narcissiques à leur manière, ils ne pensent qu'à leur petite personne, ce sont des personnes extrêmement toxiques et ils le savent et ils se tiennent ensemble et tout ça. Et donc finalement, au bout du compte, le malaise dans cette bande dessinée-là, c'est de côtoyer de très près des personnes qui sont, mon Dieu, fondamentalement toxiques et désagréables au bout du compte. Et la bande dessinée, elle ne laisse même pas, je dirais, à quoi que pour les quelques personnes, et on va pouvoir en reparler, mais elle laisse très peu de place à un à l'espoir de dire que ces gens-là peuvent s'en sortir de ce qu'ils sont. C'est donc, au bout du compte, l'histoire va complètement au bout de son idée et elle reste longtemps dans cette toxicité-là. Excusez-moi, je reviens souvent avec ce mot-là parce que c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Et je dirais que le dessin, puis j'ai l'impression qu'on risque de parler beaucoup de dessin ce soir parce que les 4 bandes dessinées qu'on a eues à lire étaient extrêmement différentes au niveau du trait. Ben là, ici, on a un dessin photoréaliste. Il n'y est pas pour rien non plus au malaise parce qu'on a l'impression, finalement, au bout du compte, de voir des gens dans la rue, là, selon moi. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette bande dessinée.
Et maintenant, c'est le moment où j'ai l'impression que tous les regards autour de la table se tournent vers notre pépère libraire, Édouard. Donc, par quoi on commence? Comment on transitionne vers le premier titre?
Eh bien, en fait, j'ai envie justement de carrément de poursuivre avec Anna, parce que j'avoue que moi, très personnellement aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le titre. Inévitablement, justement, Jérôme parlait du caractère très réaliste, à la fois du dessin, des personnages aussi. Et c'est sûr qu'encore une fois, comme je disais, moi, le malaise va s'ancrer dans le fait que c'est possible. Et là, non seulement c'est possible, mais je veux dire, on a vraiment... On a l'impression de reconnaître certaines personnes qu'on a connues ou qu'on a...
Pourquoi tu me regardes?
Porte le chapeau si ça te va, hein, en même temps, parce que il y a, oui, comme disait Jérôme, une toxicité, mais une petitesse chez ces gens-là qui est épouvantablement troublante. Cette espèce d'obsession, de contrôle, cette absence gratuite d'altruisme, mais complète, justement, ce ne sont que des égoïstes qui pensent à eux, à leur avantage, à leur profit. Mais est-ce qu'on peut être plus... appelez-moi pessimiste, là, mais est-ce qu'on peut être plus les deux pieds dans la réalité de notre humanité? Je veux dire, cette espèce de justement de quête d'absolu que tout le monde a, mais c'est un absolu qui est sombre, c'est un absolu qui est... dans lequel l'amour est juste un dénominateur parmi tant d'autres, est juste un élément parmi tant d'autres. J'avoue que question malaise, moi, Anna aussi m'a vraiment, est vraiment allée me chercher, encore une fois, dans ce caractère réaliste-là, dans le fait que c'est des gens qu'on connaît, qu'on je veux dire, il n'y a pas d'exagération. Oui, ils sont poussés très bien. Oui, ils sont épouvantablement exécrables. Mais vous avez déjà rencontré des gens épouvantablement exécrables dans votre vie. Là.
Puis j'ai l'impression que le choix esthétique qu'on fait justement avec le photoroman, et d'ailleurs, a fait vraiment une tendance depuis Gilles Lajeune cet automne. Jérôme, tu auras un défi. Mais avec le photoroman, ça nous renvoie dans la face justement que c'est des gens qu'on côtoie, que c'est des gens qu'on peut rencontrer. Et en même temps, autant, ça nous renvoie aussi au fait que c'est des gens qui se mettent en scène, qui mettent leur malheur en scène, qui mettent leur vengeance en scène. Il y a un des personnages qui fait des photographies qui est un peu voyeur, donc qui sont limite toxiques aussi, comme même pratique artistique. Donc, il y a vraiment un amalgame à travers tout ça. Et dans le contexte d'un album qui, pour moi, relève aussi du pari parce qu'il n'y a absolument personne de sympathique là-dedans. Il n'y a pas de protagoniste auquel on a envie de s'identifier. Au contraire, et c'est le genre de bande dessinée où on dit, on dit toujours, il faut avoir un personnage dans lequel on peut se reconnaître et le reste. Ça devient un peu un défi ou une épreuve à un moment donné de s'infliger des personnages aussi antipathiques. Mais en même temps, à un moment donné, c'est le reflet qui en ressort et la réflexion qui en découle qui devient extrêmement riche. Et donc, oui, on subit ces personnages-là, mais on les subit pour comprendre, pour saisir, pour prendre un recul peut-être par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à l'omniprésence de la mise en scène de soi à travers Instagram, à travers les médias sociaux et la toxicité qui découle de cette surabondance de narcissisme-là, au bout du compte.
En fait, je pense que ce qui aide beaucoup, en fait, dans mon cas, ce qui a aidé beaucoup à ce malaise-là, c'est l'aspect du dessin.
Tu veux dire à passer à travers ou à te rendre mal à l'aise?
Non, à me rendre mal à l'aise, ouais. mais c'est l'aspect du dessin, là, le photoréalisme inflige une espèce, donne une ambiance de froideur. Ouais. Ces images figées dans lequel il installe ses personnages, mais aussi l'histoire dans laquelle il va évoluer. Tu sais, je veux dire, une vendetta, tu sais, le style au cinéma de vendetta, tu sais, le gars part, puis il subit un truc, puis il décolle, il va se venger. Tu sais, là, on est dans... Mais là, attends, là, on s'installe dans... Et c'est que du verbal, là, je veux dire, ouais. Il n'y a aucune... Rien ne bouge, que les conversations.
Ouais, on n'est pas dans
et
l'action.
Et la froideur... Des atmosphères, même les personnages, c'est des photos, mais ouais. Aussi, on peut voir aussi les décors qui sont comme figés et tout. Même les œuvres d'art. Moi, je pense au petit bout là, du voyeur, celui qui ouais. Prend des photos et qui organise une expo. Juste ce bout-là, dans ce style graphique-là, ça fout les jetons, là. Ça fout les jetons, tu sais. Là, tu fais « Ah, ouais, OK. »
Ben, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, la bande dessinée n'est faite que de blanc et de noir, avec beaucoup d'aplats de noir. Puis au début, moi, je trouvais même qu'à certains moments, c'était maladroit. Puis, bon, évidemment, quand on se met à réfléchir à une œuvre pendant qu'on la lit ou qu'on vient de finir de la lire, on finit des fois où on se trouve des raisons. Puis tout ce noir-là, on dirait que les gens eux-mêmes sont dans des zones d'ombre quand ils se regardent un peu, qu'ils ne se voient pas aller, puis tout ça. Mais comme tu dis, Marco, c'est que le personnage, quand même Anna, le personnage éponyme, elle nous est présentée au départ comme une victime, surtout qu'on la voit du point de vue du narrateur qui est, je le rappelle, l'espèce de dieu autour de qui tout semble tourner, en tout cas tant de son point de vue qu'au début de sa gang d'amis artistes. Mais c'est pas trop long que sa propre vengeance devient celle d'une manipulatrice hors pair et presque glaciale, là, d'une certaine manière. Puis là, j'ose pas dire jusqu'où elle va en tant que telle, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de gore là-dedans. Comme le faisait remarquer Raymond, on est dans du psychologique pur. C'est peut-être, en fait, le scénario est de Bette Bedard. Là, manifestement, il s'est beaucoup attardé là-dessus. L'autre aspect, par contre, c'est que le petit, et là j'ose bien le dire, tout petit, on parle peut-être d'un pied de vent à travers les nuages, c'est pour dire le rayon de soleil qu'il y a dans cette bande dessinée-là, viendrait peut-être des trois autres artistes, dont le fameux voyeur qui, à peu de choses près, on peut avoir l'impression qu'une fois que le narrateur n'est plus parmi eux, ont un peu plus de pouvoir sur leur vie, puis ils semblent être moins à l'ombre. Mais encore là, on est... Je l'essaye peut-être de trouver un peu de lumière dans l'ombre de cette bande dessinée.
Je pense que oui, parce qu'en fait, je pense que leur liberté leur permet simplement de prendre la place que ce type-là. C'est leur rêve, tu sais, en tout cas, surtout le voyant, on voit que tout ce qu'il veut, lui, c'est juste être, avoir le même contrôle, avoir le même. Et pour en fait, suivre dans le côté du. Oui.
Lui, juste pour dire, justement, puis je ne sais pas si on s'en allait vers ta transition, là, Edouard, mais ce personnage-là, en fait, pour moi, il est l'exemple type de la sursexualisation qu'on voit tout autour de nous. Là. Lui, il ne pense qu'à ça, il ne fait que montrer ça.
Oui, complètement obsédé. Mais ce qui est intéressant aussi avec le récit, et je pense que, en tout cas, pour moi, m'a aidé encore là à rentrer dans le malaise et peut-être même à créer. Bon, on parlait de rayons de soleil qui sont très absents. Peut-être peut-être le seul lien, ou encore une fois, mon Raymond disait hein, comment qu'on ne s'attache pas à ces gens-là, avec raison, mais le fait qu'on est dans la tête du personnage principal aussi. Et non seulement on est dans sa tête, mais le narrateur nous parle comme si on était le type. C'est vous ressentez ça.
Oui, puis un narrateur
vous avez
qui n'est pas fiable non plus, dans le fond.
Non.
T'sais, dans le fond, on est obligé, c'est le genre de BD qu'on est obligé de relire pour mettre la narration en perspective. À quel point le narrateur est-il en train de nous tromper? À quel point le narrateur a-t-il une bonne interprétation de ce qui se passe? Dans un contexte hyper claustrophobique aussi, avec le noir et le reste. Mais c'est constamment, et il faut s'en rappeler à un moment donné au fil de l'album, parce qu'on se laisse quand même immerger dans sa perspective. Et qu'on en vient à oublier, peut-être même que c'est sa perspective, à un moment donné que ça devient la perspective, alors que finalement, il y a peut-être un décalage, il y a sûrement un décalage.
Bien, il y a un décalage, mais au-delà de ça aussi, c'est que justement, je pense que, et c'est quand je parlais bon, de la nature du malaise, hein, pourquoi on ressent un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange. S'il y a quelque chose qui nous dérange, la bonne façon, c'est soit de le confronter, mais c'est de réfléchir aussi. Ça nous révèle à nous-mêmes à pourquoi on a ce malaise-là, pourquoi, quelles sont les valeurs qui font que nous, ça nous accroche qu'à quelqu'un d'autre. Et donc, en ayant cette espèce de vous, cette espèce de narration où il ramène sans cesse à moi-même, ben tu finis par te le demander, écoute, à un moment donné, tu dis, écoute, donc, je suis comme lui, moi, dans quelle mesure dans ma vie je suis comme ça, je suis manipulateur, je m'appelle, parce que là, l'auteur s'adresse à moi comme si j'étais ce type-là. Et là, soit on rentre dans une contre-justification totale, dire non, mais je suis absolument pas comme lui, tu sais. Ou on fait un examen de conscience, parce qu'on se dit, évidemment, je suis pas poussé dans ces extrêmes-là, mais il n'y a personne de parfait dans la vie, tu sais. Et donc, j'aime cette idée de d'interpeller le lecteur comme ça pour dire, ah, t'es un peu, oui, c'est ta fiction, peut-être pas encore une fois, est peut-être plus proche de ta réalité que tu penses, tu sais.
C'est intéressant ce que tu disais, parce que ça me rappelle, encore là, on pourrait faire plein de rapprochements avec le cinéma, évidemment, mais les quelques fois où dans une œuvre de fiction, on réussit à te faire prendre le parti d'une personne que tu sais qui n'est pas recommandable, un personnage qui n'est pas recommandable dans ce cas-ci, le narrateur, c'est tout un pari, puis au point où, j'y repense, la première partie de la bande dessinée, on se dit, mais comment Anna va s'en sortir? Quand elle commence à rentrer dans l'appartement du type et que lui revient, comment elle va s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle va finalement faire? Puis bon, évidemment, comme au moment où on lit ça, des récits de vengeance, on en a déjà tous vu. On a certaines attentes qui sont généralement trompées. Après que ce soit fait, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui va arriver à ce mec-là, finalement. C'est à lui que tout d'un coup qu'on finit par s'intéresser. Mais pourtant, il ne mérite pas qu'on s'intéresse à son sort à ce point-là quand on y repense, au bout du compte. C'est tout un pari de scénariste, effectivement, comme tu le faisais remarquer, Raymond. Hein.
Donc ça, c'est l'album Anna. Marco, en fait, est-ce que je vois que tu as le micro dans les mains?
Oui, non, ça va. Pour moi, comme je disais, c'était surtout le graphisme qui. Mais effectivement, le narrateur aussi a son petit côté malaisant, là, dans le sens qu'on est dans la tête vraiment du coupable ou du gars sur lequel on va se venger.
Alors ça, c'était Anna de Stéphane Bébédé et Christophe Beck. Et je sens la transition venir.
On sent la transition venir, hein, parce que là, évidemment, on parle d'attachement au personnage et bon, comment justement on réussit ou non, ou volontairement ou non, à nous faire attacher à certains personnages. Et si on regarde la virginité passée 30 ans, eh bien là, c'est tout le défi de la chose. Parce que le malaise ici, moi, venait de l'aspect concret de la chose, mais on s'entend que le malaise peut originer de la réalité que ces gens-là vivent ou de ces gens-là tout court qui sont des cas là, qui sont préoccupants. Bon, juste pour contextualiser un peu, justement, bon, la virginité passée 30 ans, c'est une étude qui a été menée au Japon où il y aurait, selon les statistiques, un peu plus de 25 % des hommes au-delà de la trentaine qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, qui n'ont jamais eu de conjointe. Et donc, ça engendre, vous l'aurez compris, un paquet de problématiques, un paquet de situations psychologiques, sociologiques, économiques, qui sont assez denses, qui sont assez difficiles. Et donc, l'équipe ici est allée justement à la rencontre de quelques-uns de ces gens-là, des cas qu'on pourrait appeler extrêmes, ou en tout cas qu'on pourrait appeler très typés. Du puceau, de l'homme vierge dans la trentaine. Et justement, parce que, et c'est probablement ce qui m'a justement tant touché, bon, le trait de Bargain Sakurachi est assez particulier aussi. C'est la façon dont il traite ça et donne un côté un peu ridicule à ces gens-là. Mais en même temps, justement, il y en a, je veux dire, il y en a là-dedans qui se suicident, il y en a là-dedans qui sont en complète détresse psychologique. Mais c'est pas tous des gens attachants. C'est pas tous des gens qu'on apprécierait dans la vie. On dirait, mon Dieu, t'as essayé de te tuer, puis ton drame, puis t'es tout seul, puis mon Dieu, que je me sens empathique. Non, il y a ces gens-là qui sont vraiment, j'oserais dire, dégoûtants ou repoussants, ou des gens que nous-mêmes, peut-être, dans la vie de tous les jours, on n'irait pas vers ces gens-là. Mais là, tout d'un coup, on découvre en arrière la profondeur du drame humain. De ce désarroi, de ce manquement, de ce... Et là, c'est ce qui, me donnait le malaise. C'est pour ça que je trouvais ça aussi troublant, aussi touchant, parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg de dizaines de milliers. Et quand on pense, en plus, aujourd'hui, parce que là, évidemment, c'était concentré au Japon, mais c'est un phénomène qui est endémique, c'est un phénomène qui a débordé. Le phénomène des incels, maintenant, qui est partout, la manosphère, le mansplaining, bon, tout ça. Mais tout ça est révélateur d'un désarroi profond, ancré chez les gars. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est l'extrême de tout ça. Mais je trouve que ça amène un aspect sociologique qui est très, très, très préoccupant, à mon avis.
Et Édouard, j'ai l'impression que la force, peut-être, qui fait aussi de cet album-là, ce que je parle de point de l'iceberg, c'est l'accumulation de portraits. Dans le fond, on n'a pas qu'un visage, on en a plusieurs avec plusieurs drames, avec des gens, comme tu dis, qui sont profondément antipathiques, mais qu'on arrive aussi à expliquer. Donc, il y a une richesse, je trouve, sociologique dans ce type de récit-là. Évidemment, ce n'est pas un récit sur la notion de virginité. Dans le fond, ce n'est pas un récit qui dit « si vous êtes vierge, passé 30 ans, vous avez un problème ». Ce n'est pas ça que ça dit, mais ça dit que cette réalité-là peut cacher des problèmes et va explorer différents cas extrêmes, d'une rare intensité peut-être, dans différents cas. Et je pense même le premier qu'on rencontre, ça met complètement la table, dans le fond, pour les autres, où quand on parle de personne qui est dégoûtante, qui est complètement centrée sur elle-même, qui est complètement égoïste d'une certaine façon, même si on essaie d'expliquer un peu ce qui vit autour de ça, bien, à un moment donné, ça devient tellement intense que c'est difficile de ressentir de la sympathie, mais on est mal à l'aise. Ça, c'est clair. Et il y en a d'autres qui vont tirer peut-être un petit peu plus de capital de sympathie. Il y en a d'autres qui vont nous amener à nous questionner quand on tombe, par exemple, sur une personne qui, lui, joue beaucoup sur les commentaires Facebook d'extrême droite, d'extrême gauche, ces choses-là. Donc, ça amène aussi vers d'autres angles. Donc, ça nous amène vers ces portraits-là et vers des personnes qui sont profondément blessées au bout du compte, et qui ont des réactions qui sont intenses et profondément négatives aussi par rapport à leurs blessures, par choix ou non. Mais c'est vraiment, et je le redis, c'est dans la multiplicité. Je pense qu'il y a 7-8 portraits dans l'album. Si on s'en était tenu à 3, ça n'aurait pas l'effet escompté, je pense. Là, ça, c'est clair.
C'est effectivement, c'est plus sociologique. Hein? Puis, tu vois, nonobstant que toi, tu dis, c'est surtout centré sur le Japon. Moi, ce que je trouvais intéressant à la lecture de ça, c'est qu'au bout du compte, ça parle de la société aussi. Tu sais, pas juste, en fait, de la masculinité dans la société moderne. Puis, quand tu as fait le parallèle tantôt avec les incels, moi, ça a été la première affaire qui m'est passée par la tête, les articles que j'ai lus sur ces sujets-là. Puis, qu'il y ait des gens comme ça, qu'il y avait des hommes, puis qui vivent des choses comme ça, c'est quoi qui se passe dans nos sociétés pour que ces détresses-là arrivent? Parce que c'est vraiment, évidemment, le cas qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est celui de l'artiste de la pornographie, là, qui est devenu comme une légende au Japon. Son cas est absolument troublant, je trouve. Mais c'est ça. Puis cette BD-là reste finalement au-delà du malaise. En fait, plus intéressante à lire que malaisante, dans le sens que je pense qu'elle parle de choses qui sont réellement importantes. Et là, il y a le trait, ce qui rend le truc peut-être un peu... qui augmente le caractère un peu dégoûtant un peu des gens. Là, peut-être c'est le trait du dessinateur qui les caricature à l'extrême, parfois avec des lèvres pâteuses, et puis ils sont tous en sueur tout le temps. Mais bon, ouais. Mais le portrait est vraiment est percutant, là, par exemple, de cette masculinité-là.
Oui, et le fait, ben, en fait, c'est, et le fait que ce soit un documentaire, comme je disais, moi, pour ma part, ça me met moins mal à l'aise. Plus intéressé. Tu sais, je pense à des documentaires que j'ai vus peu importe où, à la télé ou sur Internet. Je pense à des trucs comme dans le couloir de la mort, des tueurs qui racontent comment ils en sont arrivés là, qui sont... Les récits sont tout à fait édifiants, mais moi, ça m'intéresse plus d'essayer de comprendre des trucs. Et c'est pour ça que moi, le malaise vient moins me chercher. Et je pense à ces cas où, entre autres, le premier cas est intéressant. Pour moi, est intéressant, qui aurait dû probablement déclencher un malaise parce que c'est vraiment une grosse larve, puis on l'haït, puis on a envie de... Et tout le monde l'haït, et même ceux qui ont fait l'enquête l'haït, le dessinateur l'haït probablement pour l'avoir décidé de même. Et là, il fait chier tout le monde. Ils ne savent plus quoi en faire. Et à un moment donné, il pète sa coche dans la cafétéria à expliquer pourquoi il est vierge et pourquoi il maintient ça. Et c'est fascinant, ça. Moi, ça me l'a fait aimer. Bon, il a continué à faire chier plus tard, là, on nous raconte. Tu sais, c'est comme le petit texte à la fin du film biographique, biopic, là, où, tu sais, puis t'attends rien que ça, les petites phrases, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Ouais.
Et là, non, il est resté chiant, il est resté haïssable, il est resté un gros dégueulasse. Mais mon Dieu, que j'ai aimé son espèce de discours. Et c'est comme celui de l'extrême droite. Je veux dire, ça aussi, là, à tant de minutes, là, ça, c'était... Mais non, son club de lecture l'a sauvé. Putain, son club de lecture l'a sauvé. Alors, imagine, nous, comment on peut sauver des gens, mais lui, son club de lecture... Bref, tout ça m'a toujours... à chaque fois, me ramener à la réalité dans la vie, ce qui m'intéresse, puis... que ce que je constate souvent par rapport à ce que je pense des gens, puis du monde, puis dans lequel on vit, je suis toujours moins surpris de découvrir une vraie nouvelle. Là, je parle des vraies nouvelles, là, pas celles inventées, mais vraies nouvelles. Je suis moins surpris de ce qui se passe dans le monde que si on me le raconte dans une fiction.
Mais le fait, en fait, quand on parle du trait caricatural, cela dit, je vais faire deux parenthèses, le trait caricatural, j'ai l'impression qu'il est nécessaire dans le contexte de l'album parce que on y va avec des portraits relativement courts. Donc, il faut saisir rapidement la nature de la personne. Et donc, on doit porter un peu à l'extrême certains traits, certains caractères, certains éléments. Donc, soit pour nous faire avoir une réaction averse face au personnage ou nous faire ressentir une certaine sympathie selon la perception, j'ai l'impression, que les auteurs ont de cette personne-là qui raconte. Et le côté documentaire, je te rejoins un peu dans la mesure où, effectivement, quand on parle de vraies personnes, le malaise vient plus peut-être d'un sentiment d'appropriation, de mise en parallèle. On sait que cette personne-là existe pour vrai. On sait qu'on ne raconte pas l'histoire d'une personne inventée. On sait que ce malheur-là existe. On sait que cette tristesse-là existe. Et on peut s'imaginer que, pour prendre le personnage de la première histoire, qui est peut-être, au bout du compte, on en parle beaucoup, mais c'est le moins complexe des personnages. En fait, il y en a qui sont beaucoup plus intenses d'un point de vue dramatique, si on peut dire. Mais je ne sais pas, il y a comme une certaine tristesse malaisante à savoir que c'est quelqu'un qui existe pour vrai et qu'au moment où on s'en parle actuellement, bien, cette personne-là existe peut-être encore à être frustrant dans sa réalité, à ne pas avoir ce recul sur lui-même pour comprendre pourquoi il crée ces réactions averses-là. Je ne sais pas, c'est peut-être un malaise en plein de tristesse, dans le fond, pour ces personnes-là qu'on côtoie dans cet album-là. Et parallèlement, bien, comme tu disais, Jérôme, tantôt, pour notre société qui laisse de côté, et là on voit des hommes, on pourrait voir probablement d'autres types de personnes selon d'autres angles, mais des gens qui, au bout du compte, sont mis de côté par la société, qui sont juste, je veux dire, tombent dans les fentes pour X, Y, Z raisons, et au-delà de l'angle sexuel de la chose, dans le fond, que simplement pour des situations psychologiques préoccupantes, mais dans le fond, qu'on échappe complètement.
La mise en scène de soi, comme tu parlais tantôt, on est là-dedans, là. Je veux dire, les réseaux sociaux aussi, ils créent ces problèmes-là. Puis moi, c'est là-dedans que ça me rend mal à l'aise, en fait. C'est de savoir que ces problèmes-là existent, puis que c'est parce que, je repensais, là, tu vois, tu refais un peu le parallèle des incels, là, je refais ce parallèle-là tantôt, que tu as fait tantôt, je me rappelle que c'est des réseaux qui s'entretiennent entre eux en plus, tu sais, c'est des gens qui finalement s'entretiennent entre eux. Alors, le malaise vient du fait que c'est la détresse de ces personnes-là qui est importante finalement.
Ben, c'est qu'en, je pense aussi, c'est ça, tu sais, en s'entretenant entre eux, en créant justement le réseautage comme on a eu aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur donne? C'est l'illusion d'une reprise de contrôle sur leur vie. Parce que reste que aussi, c'est ça le malaise. C'est de dire, mon Dieu, la vie part dans toutes les directions. Ils n'ont aucun contrôle ou peu là-dessus. Bon, il y a des choses qui ont provoqué par eux-mêmes. Mais un moment donné, quand la roue se met à tourner, puis là, ça fait 10, 15 ans que tu es comme ça. Puis là, tu es rendu dans un pattern, puis tu es rendu dans ta cycle, puis dans ta routine. C'est à partir de là, tout briser ça. Là, tout d'un coup, c'est la perte de contrôle, c'est la perte de tes repères, c'est la perte de lieux familiers. Et c'est ce qui m'amène à « J'ai tué le soleil »
de Winchester. Je m'en allais le faire!
voilà. Il commence à trop me connaître. Mais, ben non, mais bien sûr, hein, parce que transition est en transition. Mais, blague à part, cette perte de contrôle-là, que j'ai retrouvé chez ces gens-là, où cette espèce d'incapacité à essayer de prendre sa vie, à l'avoir en main, pas dire non, je vais l'améliorer, je vais la non, et tout. Ben, évidemment, tu sais, dans J'ai tué le soleil, là, on a ça poussé à son extrême. C'est-à-dire, là, je me réveille, on est comme dans 28 Days Later, là, tu sais.
Ouais.
Je me réveille, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, tout est détruit autour de moi, et là, je fais quoi, moi, là? Je suis où? Je suis qui? Je ne sais même pas je suis qui. Je sais même pas avec qui je suis né. Et ça, j'avoue que, bon, tu sais, au-delà justement du récit fictif, ce serait-ce que quand arrivera la fin du monde, je verrai où je me placerai par rapport à ça, là. Mais
Comme toutes les fictions, ça parle un peu de nous autres.
Mais c'est ça. Mais si on se place dans encore là, une approche un peu plus concrète, je veux dire, moi, c'est cette perte de contrôle-là, cette perte de souvenir-là. De dire, j'ai aucune idée, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas qui je l'ai fait, je sais pas comment. C'est cette espèce de contexte. Parce que pour moi, un être humain répond de ce qu'il fait. Tu sais, je veux dire, c'est le principe même, de l'anarchiste. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde fait n'importe quoi, c'est tu fais de quoi, puis tu te gères toi-même. Mais je veux dire, se gérer soi-même, faut savoir ce qu'on a fait.
Je suis pas totalement d'accord avec ta perception du personnage de J'ai tué le soleil. Okay. Puis, en fait, mais ta transition, t'es bien partie, par exemple. Ouais. Mais moi, je pense plutôt que le personnage de J'ai tué le soleil, ben, ma première lecture, là, après je l'ai fini, ça m'a fait penser à deux choses. 28 Days Later, quand ça commence, évidemment, on peut pas s'en empêcher. La bande dessinée commence dans les codes du film de zombies. 100 000 à l'heure. Puis, faut être un peu patient si vous voulez vous dire, genre, ben là, c'est juste une BD d'apocalypse comme toutes les autres. Mais lisez-la jusqu'à la fin, ça vaut vraiment la peine. Ceci étant dit, J'ai tué le soleil, pour moi, je l'ai lu comme un anti-Kafka, parce qu'il y a plein de références, je trouvais, à la métamorphose. Il y a plein de coquerelles un peu partout. Le personnage s'appelle K, et ben, il se donne ce nom-là, K. Puis, au contraire du personnage de la métamorphose, il se prend en main parce qu'il a perdu son lien avec, puis là j'espère que je ne vais pas trop loin en disant ça, mais avec sa figure du père. Il l'a pris lui-même, ses choses en main. Et au contraire, à toutes les fois où on le voit, du moins dans la première partie, il s'en va toujours dans une ligne droite, il fait toujours ce qu'il a à faire, puis il réussit toujours à le faire. C'est quand ça recommence à...
Mais en fait, il a perdu la mémoire, mais il n'a pas perdu son instinct.
Ouais.
Car quand on aboutit aux trois quarts du récit, où là, les flashbacks reviennent, c'est-à-dire que sa mémoire revient, on voit bien que là, il n'a pas perdu son instinct.
Mais,
parce que
mais sa mémoire, ou ce qu'il pense être sa mémoire, ce récit-là est assez complexe une fois fait. Que tu l'as fini.
Non, non, mais en fait, c'est l'épilogue. Hein? Ouais, l'épilogue vient un peu fourrer tout le truc. Là. Mais c'est ça. En fait, j'ai tué le soleil, c'est ça. C'est, ça commence comme 28 jours plus après. Ah, ouais. Mais ça commence aussi comme Walking Dead. Et c'est l'antithèse de Walking Dead. C'est vraiment le truc à l'opposé, c'est-à-dire... Et c'est ce qui m'a mis, moi, mal à l'aise dans ce récit-là. Je veux dire, Walking Dead, qui je considère comme, depuis 10 ans, une des meilleures séries jamais produites en BD, et qui, maintenant, est terminée, et que, dès le départ, le gars se réveille comme K, dans un monde post-apocalyptique, et là, on va le suivre comme K, mais Rick Grimes va être le héros. Rick Grimes va retrouver les gens qu'il aime, va former des groupes, protéger les groupes, va avoir toutes sortes de réflexions sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là, comment il fait pour survivre. Il va passer par toutes sortes d'étapes et au fil des années, il va développer, il va pousser l'instinct de survie à l'instinct de vivre, à réinstaller quelque chose. Mais que lui... C'est l'antithèse de ça. Il ne fait que survivre et tout. Et à un moment donné, quand la mémoire y revient, et on voit un peu les motivations qu'il avait dans le monde normal. Et là, c'est là qu'on découvre, tout sans essayer de spoiler un peu la fin. Là. Mais tout ça pour dire que... Et là, c'est là que c'est malaisant, parce que moi, dans tous les films de zombies, j'ai appris à avoir de l'espoir. J'ai appris à suivre un héros qui, lui... Tu sais, il veut que ça change, il veut que... Mais qu'à un moment donné, il a tué le soleil. Et moi, je trouve que, tu sais, je comprenais pas trop le truc. Puis même quand il le fait, là, à l'article de la mort, sur un lampadaire, bang, il tire sur le... J'ai tué le soleil. Mais c'est ça, tu sais. À la fin, il tue l'espoir, il tue le soleil. L'espoir de quelque chose au bout.
En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce récit-là... Mettons, si on compare, si on s'amuse un peu à comparer avec Anna. Anna, dès le départ, on nous indique la nature des personnages, la véritable nature de ces personnages-là. Et on comprend que c'est un peu à notre corps défendant qu'on va s'intéresser à ces gens-là. Dans le cas de J'ai tué le soleil, on le dit, ça commence comme un récit de film de zombies, comme un récit de survie. Et veut, veut pas, on met un humain au cœur de ce récit-là. Je vais m'identifier à cet humain-là. Je vais vouloir qu'il survive. Je vais espérer qu'il s'en sorte et je vais le suivre en étant engagé parce qu'on ne me donne aucune indication que je ne devrais pas être investi dans cette personne-là et que cette personne-là ne mérite pas nécessairement que je m'investisse dans son sort. Et il y a une difficulté, évidemment, à parler de ça et je pense que les gens qui nous écoutent comprennent bien qu'on tourne autour du pot, mais c'est à Essien. Je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui a envie d'aller trop loin dans la description de ça parce que il y a un premier renversement, à peu près à la mi-récit, où on comprend finalement que cette confiance qu'on avait envers le personnage-là n'était pas nécessairement utile ou pertinente ou nécessaire ou avisée. Choisissez votre terme. Et à partir de là, il y a un premier malaise à voir justement qui cette personne-là était, où cette personne-là s'en allait quand tout ça est arrivé, si on peut dire. Et ça... ça ne marcherait pas autant si on ne nous avait pas laissé les yeux fermés, la possibilité de s'investir là-dedans. Et si les gens lisent, il va falloir qu'ils oublient ce qu'on vient d'en dire pour se laisser la liberté de s'investir dans ce personnage-là pour après ça, justement, recevoir un premier coup dans la figure quand ils vont découvrir qui il est vraiment. Et un peu plus loin, on nous amène un autre élément qui, lui, est une claque d'en face, mais complètement un autre sens et j'en parlerai même pas. Mais vraiment, en termes de construction, sérieusement, là, quand on sort ici, quoi, à peu près 200 pages, c'est bien exploité, c'est bien géré et c'est bien temporalisé à l'intérieur de ça. Donc vraiment, d'un point de vue scénaristique, là, c'est fort, c'est vraiment fort.
Mais je trouve ça intéressant que tu parles de comment qu'on s'attache aux personnages au départ, puis bon, nos illusions sont brisées. Moi, tu vois, c'est... même au départ, je sais pas, je me gardais un doute. Je ne sais pas si ma propension à toujours planifier comment je me débrouillerais quand la société va s'effondrer et qu'on devra vivre par nous autres mêmes, mais je ne sais pas, c'est une situation que je trouve toujours très, très justement malaisante, très pointilleuse. Tu sais, je veux dire, imaginons que tout s'effondre, on est dans un contexte, bon, post-apocalyptique, des zombies et tout le reste. toi, tu vis ta vie, tu mènes tes trucs, tu essaies de survivre comme tu veux. Mais là, tout d'un coup, là, l'étranger que tu connais pas, là, la personne qui débarque, je veux dire, aujourd'hui, dans le contexte, on s'en fiche, tu sais, à moins qu'elle ait un fusil dans les mains ou une machette en sang, je veux dire. Mais là, là tu sais, tu te promènes sur la rue, il n'y a personne. Puis là, il arrive quelqu'un d'autre. C'est un ami? C'est un ennemi? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa motivation? Il va-tu me tuer si je l'aide? Il va-tu me poignarder pendant que je dors? Il va-tu... Ou c'est-tu un bon gars? Puis je vais-tu ne pas l'aider et je passe à côté d'un geste altruiste d'avoir une bonne personne? Tu sais, c'est tout ça. Là. C'est tout ce qu'on enlève dans Winchlus. Hein. Ce que t'es. D'où tu viens, ce que tu as fait. Puis là, en plus, on le place dans un contexte post-apocalyptique où, techniquement, tous ces trucs-là, justement, ce que tu as été, ce que tu as fait, ton rapport moral et ces trucs-là, ne comptent plus. Ou comptent, mais pour très peu de gens, là.
On fait confiance aux personnages.
Voilà. Voilà.
En fait, on parle beaucoup de post-apocalyptique, mais tu sais, quand tu y penses, là, j'ai tué le soleil, là. Puis là, ça, c'est plate parce qu'on peut vraiment pas parler facilement de cette bande dessinée-là. Mais c'est parce que ça prend quand même une certaine place, puis c'est la première chose qui nous frappe. Mais à la limite, une fois qu'on a fini ce récit-là, là, on peut relire, entre guillemets, tout ce qu'on a lu avant comme étant complètement autre chose. Tu sais, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui n'est pas vrai dans le diégétique là, en tant que tel.
Puis on peut le faire deux fois.
Ben oui, deux fois. Puis encore, en tout cas, c'est une BD qui a l'air... Elle se lit premièrement, elle se lit super bien. Winchlus a un trait extrêmement énergique. Oui, c'est très brut. Il y a de l'énergie, il y a de l'action. Et puis, ça roule tout le temps. Même dans la deuxième partie. Puis, en même temps, une fois qu'elle est finie, toute cette action-là, on fait comme... Wow, j'ai trouvé plein de niveaux de lecture et tout ça. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée vraiment hallucinante. Et parlant de symbolique, puis là, je m'essaye dans la transition.
Vas-y, mon ami, t'es bien
parlant
parti.
Parlant de symbolique, ben, y a le tram qui nous a été proposé par Raymond. Tram, qui est un récit qui pourrait être également, comme tu le disais, un film d'horreur, là, d'une certaine manière. Et pourtant, en même temps, tout est dans, contrairement, mettons, aux autres bandes dessinées qu'on a parlé, et dans ce qui n'est pas montré, selon moi, dans Tram, et peut-être même pas du tout compris aussi, un peu comme dans les films d'horreur des années 70, si j'ose dire, à cette heure, on vit dans une époque où on dirait qu'il faudrait tout savoir de tous les personnages qu'on rencontre dans un récit de fiction. Mais Tram est à la vieille école. Ce qui rend la chose terrifiante, c'est qu'au contraire, il n'y a pas toujours d'explication à ce que tu vis en tant que tel. Il y a deux personnages principaux qui rencontrent ce qui semble être une gang de camionneurs qui leur veulent du mal. Il leur arrive quelque chose, puis on ne le voit pas. Puis au bout du compte, à la finale, quand on les voit, et là, le dessin de Ratigueur, qui est d'un autre style complètement, des trois autres qu'on a vus, très... ben là, j'ose pas dire ligne claire, parce que c'est pas exactement ça, mais tu sais, très épuré quand même. Il contribue beaucoup à ce malaise-là, d'ailleurs. Mais quand les deux personnages réapparaissent à la fin, on sait pas du tout ce qu'ils ont vécu. Mais quand on les voit apparaître avec ce qu'ils ont sur eux puis les blessures qu'ils ont, on ne peut qu'imaginer le pire. Et le pire que ce qui va arriver à la dernière case, quand on voit la dernière case d'un des personnages qui est en point de vue subjectif, sur ce qu'il s'apprête à faire. Donc, on n'est pas loin du... mon Dieu, comment on avait un terme pour parler de ça dans les années 2000-2010, le torture porn, d'une certaine manière, mais on ne le voit pas, on ne peut que l'imaginer. Et là, Tram... est assez percutant là-dessus, même si le dessin crée un certain distanciation.
Ben oui, mais en fait, c'est drôle que tu parles de ça. Puis tu dis, parce que moi, le premier truc qui m'a sauté à l'esprit quand je l'ai terminé, c'est le film Hellraiser Inferno, qui est le, je pense, quatrième ou cinquième, où c'est un type qui se rend pas compte qu'il crée son propre enfer et qui va vivre en répétition, tout en suggestion, l'enfer qu'il s'est lui-même créé. Et... ça m'a frappé parce que moi, on a ces gens-là au début. On a une espèce de gnome ou bon, de monstre qui débarque. Et il débarque en montant la falaise de la même manière que nos deux personnages.
C'est un peu psychédélique.
Oui, mais de la même manière que nos deux personnages vont la remonter plus tard, un avec la même fourche à la main. J'ai dit, ça, c'est, ils sont morts, ils sont pris dans leur enfer personnel ou, à la limite, un cauchemar, tu sais, où tu essaies désespérément
dans
toujours
tous
de trouver
les cas,
le moyen.
C'est troublant.
Puis tu, oui, oui, tout à fait. Pour une petite BD comme ça, avec un petit trait. Mais, c'est, comme je vous dis, j'avais l'impression d'être vraiment, c'est ça. C'est comme dans le réseau. C'est comme, j'ai créé mon propre enfer en fonction de mes propres péchés. Regardons ça, judéo-chrétien. Et je suis toujours en train de revivre la même maudite patente. Je suis toujours en train de revenir au même point parce que. C'est ça la punition.
Ce que tu dis là, c'est comme s'il avait dessiné un cauchemar, finalement. C'est, je trouve ça intéressant. C'est comme si c'était la logique d'un cauchemar. Ben, logique ou absence de logique, là.
Ben, moi aussi, je vais me référer au cinéma. Et mais là, je suis pas sûr que je vais fitter dans tout. Alors, moi, j'ai pensé, avec la transition du dernier thème qu'on avait eu, à l'absurde, et j'ai pensé à un film des Marx Brothers. Bon, je m'explique. Non, je sais, je m'explique. Avez-vous remarqué comment les deux personnages qui sont soudainement l'espèce de créature avec le trident débarquent, comment, à un moment donné, enclenchent des dialogues absurdes, genre la créature au trident demande des trucs complètement absurdes, là, je veux juste aller à la fête, je veux juste... Tu sais, c'est pas un braquage, c'est pas une attaque de monde, et Il a des répliques complètement en dehors de ce que du normal. Et les deux personnages qui se font braquer ont des dialogues normaux. Ils font comme si de rien n'était. Et là, j'ai... Ah, là, on est dedans. Là, c'est un film des... Et là, on a cette relation-là que les deux personnages avec... comme Cruchot a une relation avec Margaret Dumont, la fameuse bonne femme qui, à chaque fois... Et là... On embarque et là, on passe au camionneur qui devient du slapstick là, avec les poursuites, ouais, des camionneurs après. Mais là, c'est comme si on disait, bon, mais les Marx Brothers, on va vous faire de l'horreur, mais de la vraie, là, de la sérieuse. Et moi, c'est tout ce fil, cette distanciation-là, et tout ce fil mince entre l'absurde, puis le drame, parce que à la fin, c'est évident, là, le malaise de ce qu'on n'a pas vu, ce que mentionnait Jérôme, ce qu'on n'a pas vu. Effectivement, là, il fonctionne là, comme dans... Tarantino expliquait son truc de l'oreille. Là. On ne l'a pas vu, mais asti qu'on sait ce qui s'est passé. Là. Tout à fait. Alors, voilà. Moi, j'ai pensé au...
J'avais pas la comparaison avec le slapstick, d'ailleurs, en fait, parce que même dans la sphère de l'horreur, ça reste quand même quelque chose qui est présent, qu'on pense dans l'horreur des années 80, par exemple, avec Sam Raimi, Evil Dead. C'est des séries qui sont fortement influencées. Et évidemment, l'absurde poussé dans un certain sens peut devenir malaise et peut devenir horrifiant. Parce que dans cette situation-là, ben, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui arrive, tu ne sais pas pourquoi il est là. Il te demande des trucs, tu ne sais pas pourquoi il te le demande. Tu ne sais pas comment réagir, tu es complètement déconnecté. Puis là, à un moment donné, il arrive et leur dit, ben, « Hey, on va prendre une ligne de coke puis on va se droguer ensemble. » Puis là, subitement, ça change aussi la perception du reste de l'album parce que on le vit un peu... Sans nécessairement dire qu'on est vraiment dans la tête de ces personnages-là, mais il y a une notion d'entre guillemets trip de coke qui est présent aussi dans la rythmique, dans la perception, dans la nature, dans la dynamique des trois personnages. Donc, à travers ça, il y a le jeu de recomposition que Ratzinger propose aussi, avec des cases qui sont noires, qui se servent un peu de prélude, de rappel à des éléments qui arrivent avant, mais qui indiquent aussi peut-être qu'il y a des éléments, il y a une attention particulière à donner à ce qui s'est passé là, comparativement au reste du récit. Et donc, pour moi, c'est quelque chose aussi que tu relis une fois, deux fois, parce que il y a la dimension de circularité parce qu'il y a des sens cachés ou parce qu'il y a des non-sens cachés aussi. Et tu sais, au bout du compte, ce qui est particulier là-dedans, c'est que tu sors de là sans savoir exactement ce que tu as lu, au bout du compte aussi. Et il y a un malaise de lecteur à travers tout ça parce que ça reste marquant comme lecture de par justement l'amplitude des questions qui ressortent, mais en sentant qu'il y a, un peu comme dans les bons récits absurdes, qu'il y a un sens ou qu'il y a à tout le moins une direction à ça.
Ben, à tout le moins, parce que, je veux dire, si c'était simplement je veux dire, il n'y aurait pas de malaise, là. Faut qu'il y ait quelque chose qui se concrétise dans tout ça. Et ça me ramène justement, parce que, bon, on a fait un peu le tour et, mon Dieu, le temps tourne, mais je suis content parce que je pense que j'ai réussi mon pari, à savoir que je me disais que les quatre natures des malaises allaient être très différentes, mais en même temps s'entrecouper, et je suis pense pas m'être trop trompé. Là.
Je rappelle les quatre titres dont on a parlé. Ratinger, Trame, Le poids d'une tête coupée chez Atrabil. Winchlus, J'ai tué le soleil chez Gallimard. Atsuhiko Nakamura et Bagen Sakareichi, La virginité passée 30 ans chez Akata. Et Stéphane Bedbédé, Christophe Beck, Anna à La boîte à bulles. J'étais en compagnie de Marco Duchesne, d'Édouard Tremblay, de Jérôme Vermette. Un grand merci à vous trois. Et vous trois, ben, on se revoit le mois prochain. Et pour vous, chers auditeurs, auditrices, on se revoit la semaine prochaine pour des entrevues et des discussions autour de la bande dessinée. C'était Raymond Poirier au micro. À très bientôt.